Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin, je suis créateur moi-même et dans ce podcast, j'ai la responsabilité de poser les meilleures questions du monde à mes invités pour qu'ils puissent vous transmettre les découvertes qui ont changé leur vie. Inspiration Créative, c'est un podcast qui est publié chaque lundi et avec chaque épisode, j'envoie un email à toute ma communauté avec des conseils pour mieux produire, mieux promouvoir et vivre de leur création. Alors, si vous avez envie de rejoindre les 5000 lecteurs et d'apprendre à mes côtés, rejoignez-nous sur inspirationcreative.co/inscription. Je vous mets le lien dans la description. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le bonheur d'accueillir la géniale Roxane Brett. Roxane est une actrice, une comédienne et une auteure qui est absolument géniale. Vous la connaissez peut-être pour Les Parasites, auxquels elle a participé pendant de nombreuses années, mais elle a joué aussi dans des pièces incroyables des centaines de fois et elle a un talent fabuleux. Dans cet épisode, on a parlé de sujets très importants pour tout créateur, comme par exemple comment créer sans se brûler, comment utiliser les expériences de sa vie pour alimenter ses propres créations, mais aussi comment reprendre du plaisir dans ses créations et reprendre un état d'esprit d'enfant pour oser échouer et avancer et progresser. Roxane est absolument géniale, c'est quelqu'un que j'estime énormément humainement, on a vécu une trop belle rencontre et je vous laisse tout de suite entre ses mains pour découvrir tout ce qu'elle a à vous transmettre. Bonne écoute! Bienvenue Roxane.
Bonjour.
Je vais pas te faire peur, hein, t'inquiète.
Okay.
Comment tu vas?
Ça va super bien.
Ouais, ça se passe comment? T'es bien en ce moment? Est-ce que t'es heureuse?
Je crois que je suis très heureuse. Malgré la situation actuelle, ouais. Je garde un petit peu la petite flamme.
Ouais.
Ça va. En ce moment, je travaille beaucoup de chez moi.
Comme nous tous, ouais.
Voilà.
C'est trop cool. J'aime toujours beaucoup la métaphore de la petite flamme.
Oui.
Enfin, moi, tu vois, c'est un truc qui m'anime beaucoup et je trouve que c'est tellement imagé de se dire comment on peut la raviver, au contraire, pourquoi elle s'éteint et tout. Et, est-ce qu'il y a des trucs, toi, que tu vois dans tes projets ou dans ta vie ou dans tes idées, où tu te dis, putain, ça m'alimente et ça met un peu, ça souffle sur la braise, tu vois, de ta petite flamme, et d'autres, au contraire, qui t'éteignent un peu parce qu'en gros, ça te plombe, quoi.
Moi, j'ai un parcours un peu, pas atypique, mais un peu presque à l'envers, parce que j'ai commencé à fond les ballons, à 16 ans, à travailler. Et on va dire que je brûlais intensément, mais que ça a failli me consumer un moment, parce que j'ai fait un burn-out.
Ouais. C'était à quel âge ?
C'était il y a quelques années, c'était il y a 2 ans et demi. Je suis nulle avec le temps.
Il y a quelques années.
Voilà, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et donc la flamme s'est éteinte, quoi, genre... Ciao, bonsoir.
Ouais.
Et puis, aujourd'hui, je me rallume un peu à peu.
Non, ouais.
Non mais voilà, j'ai retrouvé la petite flamme, mais c'est vrai que...
Si tu regardes un peu cette période un peu... Pour moi, c'est un vrai sujet, le burn-out, quand on est créatif, quand on fait des choses. Tu vois, j'ai toujours l'impression qu'on est un peu sur la crête, tu vois, à courir. Mm. Et à tout moment, genre, je peux en faire trop et à un moment, juste tomber et... des deux côtés. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? C'est que tu bossais trop, tu faisais trop de choses, tu...
En fait, moi, je pense qu'à 16 ans, j'avais très, très envie d'y arriver. Mmh. Parce qu'on m'a dit, quand j'ai dit je voudrais être comédienne, mes parents m'ont dit, bon, écoute, pourquoi pas, mais bon, tu sais, tu vas galérer, tu vas jouer devant 10 personnes, ça va être très dur, mais bon, on verra bien.
On va le faire.
Et moi, à partir de ce moment-là, j'étais genre, ok, c'est parti, c'est maintenant. Ouh. Il me faut des castings d'agents, il faut que je tourne, il faut que je... Et en fait, je me suis fait un plan de carrière de cinglé.
Ouais, hyper ambitieux.
Hyper ambitieux. J'ai tourné dans mon premier long métrage, 25 jours de tournage à 17 ans. Et pour moi, il fallait absolument pas que ça s'arrête, il fallait que je trouve un agent. Donc j'ai trouvé un agent, j'ai ramené ma mère chez l'agent en disant « Maman, il faut que tu signes.
» Pour moi.
Pour moi, pour dire oui. Et ensuite, je suis passée des castings... J'ai passé tous les castings possibles, imaginables, quand j'étais ado. Et j'ai pas arrêté de tourner, de tourner, de tourner. Et en fait, à 19 ans, j'ai aussi fait du théâtre. Et le théâtre, ça a été un grand amour. J'ai joué ma première pièce 350 fois.
Je vais t'en parler parce que je trouve ça trop intéressant aussi. On va creuser après.
Ouais. Et puis ensuite, j'ai enchaîné avec une deuxième pièce que j'ai jouée plus de 200 fois. Et ensuite, j'ai enchaîné encore avec une autre pièce. Et je disais oui à tout. Je voulais m'investir dans tous les projets possibles et imaginables. Je faisais des vidéos avec les parasites. Le soir, ils me ramenaient au théâtre. Je retournais tourner avec les parasites le lendemain. Après, je tournais dans une série sur TF1 qui s'appelle Sam. Toute la journée, j'allais en taxi-moto au théâtre. On me jetait sur scène et tout. Donc, j'ai eu ce rythme-là pendant des années. Et un jour, je suis devenue triste, mais terriblement triste. Mais je me suis rendu compte que j'étais hyper malheureuse. Quand justement, enfin, j'ai joué dans le théâtre de mes rêves, qui est le théâtre du Rond-Point, et j'étais extrêmement malheureuse.
Okay.
Alors que j'étais à l'endroit où j'avais toujours rêvé d'être, et donc j'ai pris la décision avec perte et fracas, à la fin de mon contrat sur cette pièce, d'arrêter et d'arrêter plein de choses, voilà. Et de me retrouver pour pouvoir faire autre, enfin en fait finalement pour faire la même chose mais mieux.
Moi je suis super touché par ton histoire parce que ma maman a fait 2 burn-out.
Ah oui.
Et je l'ai vécu de près, moi sans le vivre moi, mais juste en spectateur à côté, en accompagnant. Et je sais à quel point ça peut être dur et je trouve ça super important de sensibiliser aussi sur ça, sur comment arriver à bien sûr explorer, bien sûr travailler comme peut-être plus que dans d'autres milieux parce que tu as quelque chose à prouver et si tu veux que ça marche, personne ne va t'envoyer quoi que ce soit. Tu vois, ça ne va pas tomber du ciel. Et je comprends.
Non, puis même si ça marche, on ne va pas te donner une médaille. En fait, il n'y a personne au bout d'un moment qui dit « t'es épuisé, tu as vraiment donné tout ce que tu avais,
bravo.
Tiens, bravo, la médaille de... »
Du burn-out, félicitations.
En fait, il n'y a pas... C'est ça, c'est qu'en fait, on court après quelque chose, mais qu'est-ce que... Déjà, après quoi est-ce qu'on court? On ne sait pas vraiment. Et puis, personne ne va venir vous serrer la main en mode « félicitations, vous êtes allé au bout de votre énergie.
Et... » Bravo.
Bravo.
Voici votre lit, reposez-vous. Essayez. Ouais. Et t'as l'impression que quelque chose a changé en toi sur ta façon de gérer tes opportunités, du coup, depuis maintenant, pour te respecter?
En fait, je sais pas. Je sais pas trop. Je pense que j'ai juste... Déjà, j'avais besoin de tout arrêter, de dormir, et de me rendre compte qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de carrière modèle, il n'y a pas de... Enfin, si, mais qu'en fait, ce n'est pas un objectif en soi d'avoir un Oscar. Non, je rigole. Non, mais de se dire, en fait, tous les chemins sont différents. J'étais jamais fière de moi.
Okay.
J'étais jamais fière de ce que je faisais. Tout était un échelon pour l'étape d'après. Je grimpais sur l'échelle et il fallait absolument que...
Ouais, ambition démesurée, envie de faire les choses bien et d'avancer,
même,
d'aller plus loin.
En fait, je ne savais pas où j'allais, mais je me disais, en fait, dès que j'avais un projet, il fallait que je penche au projet d'après et que ça ne s'arrête pas. Maintenant, j'ai appris à me dire, en fait, déjà, c'est bien. Déjà, j'ai regardé derrière et j'ai dit, en fait... C'est bien.
Non mais ce que t'as fait, c'est...
Calme-toi.
C'est ouf. Ce que je trouve trop génial, c'est que t'es arrivé tout à l'heure au studio et t'étais en mode genre, oui, pourquoi t'as choisi de m'inviter et tout. Et en fait, sans te lancer des fleurs, juste quand tu prends les 5 dernières années ou les 10 dernières années, mais t'as fait des trucs trop cool et trop bien et plein de fois, etc. Et en fait, je suis d'accord avec toi, on prend pas assez le temps de revenir sur ça et de se dire juste en un an, waouh, on a fait plein de trucs, c'est trop bien. Et moi, j'ai envie d'encourager, tu vois, tous les gens qui nous écoutent et tous les créateurs à juste faire un saut dans le temps de 1 an en arrière ou 2 ans en arrière. Quand on regarde, on a l'impression au jour le jour que c'est pas grand-chose, mais en fait, il y a trop de bons en avant qu'on fait tous.
Bah
quoi.
Oui. Et puis arrêter de se dénigrer sans arrêt et de dire « Oui, mais le voisin, il a fait mieux. » Non, mais en fait, il y aura toujours mieux. Et savoir reconnaître qu'on fait des choses bien, c'est important. Enfin, bien, c'est genre être gentil avec soi, c'est bien aussi.
Ouais, c'est clair. Tu sais, juste te faire un petit sourire de temps en temps. C'est cool. Du coup, tu dirais que tu te comparais plus avant?
Non, en fait, je me suis jamais vraiment comparée. Mais c'était une fuite en avant, toujours.
Tu sais, t'arrives à identifier ce que tu fuyais?
Je sais pas exactement ce que je fuyais, mais je pense que j'avais peur de regarder autour de moi, effectivement, et de me dire, voilà, qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? De quoi j'ai envie? Où est-ce que je veux aller? Parce que j'avais souvent ce... Ma devise, entre guillemets, c'était je ne sais pas ce que je veux, mais je sais ce que je ne veux pas. C'était toujours comme c'est qu'est-ce que tu veux faire alors
pas rien.
Je disais pas rien. Il y a des choses que je veux pas faire, mais en fait, je sais pas ce que je veux faire.
Ok.
Et
je trouve ça trop bien parce que c'est un truc que je partage beaucoup. Tu vois, je parle souvent de me dire ok, je sais pas exactement où est le nord sur ma boussole, mais je sais que je sais où est le sud au moins. Et derrière, je peux avancer plutôt vers nord-est, nord-ouest, et je sais que je suis à peu près bien. Et je trouve que de temps en temps, on a besoin juste de prendre un peu de recul et de se dire. Ok, effectivement, qu'est-ce que je suis capable d'identifier en moi qui m'aligne un peu avec où est-ce que j'ai envie d'aller? Et on peut vite se retrouver la tête sous l'eau dans plein de projets, plein d'idées, plein de trucs trop, qui sont trop cool, hein. Donc on n'a pas envie de dire non, mais en fait, il y a cette phrase qui dit en n'apprenant pas à dire non, on n'apprend pas à se dire oui à soi-même aussi, tu vois. Et je trouve que c'est trop important de se dire, ok, qu'est-ce que c'est oui à toi-même? Et c'est peut-être un truc qui t'est arrivé aussi par ce moment difficile de burn-out, qui est... Maintenant, je sais un peu mieux le faire et je sais ce que enfin, je sais un peu plus quand je suis alignée ou non, quoi.
Bah justement, moi, c'est beaucoup passé par apprendre à me connaître. Je me suis vraiment posé la question, mais qui suis-je ?
T'as fait comment pour ça ?
Et bah alors déjà, j'ai tout quitté. J'étais dans une relation très longue qui allait pas, mais j'avais même pas le temps d'y penser. Donc j'ai quitté cette relation. J'ai quitté mon appartement de la même. En même temps, et j'ai quitté le théâtre, qui était la seule chose que je connaissais depuis mon adolescence, donc c'était un
peu... Ça devait être hyper dur.
Non, c'était génial. Enfin, ça a été vraiment libérateur. J'en ai vraiment profité pour vivre des choses débiles, mais comme partir en vacances, faire de la randonnée, faire la sieste, des choses vraiment un peu inutiles.
Relax.
Et arrêter de... Parce que je faisais aussi beaucoup de sport, j'allais à la salle pour être en forme le soir sur scène, pour assurer. Mais en fait, j'étais juste épuisée de tout. Et donc, pendant un an, j'ai vécu sans pression, mais vraiment sans pression. Et je me suis rapprochée de ma famille, notamment de mes grands-mères. Et j'ai un peu posé les questions de ma généalogie, qu'en fait, je ne connaissais pas si bien. Et j'ai mis au clair tellement de choses cette année-là, c'était génial. Je suis allée m'enfermer à la campagne avec ma grand-mère, par exemple, qui n'avait rien demandé. J'ai débarqué chez elle et j'ai dit, bon allez,
mamie,
il faut que tu me racontes, il faut qu'on parle, il faut que je comprenne ma famille, il faut que je comprenne d'où je viens, il faut que je comprenne. Et ça a été vraiment très constructif. Ça a été très constructif de comprendre un peu mieux qui j'étais et puis de rien faire du tout pour aller vers ce dont j'avais envie. Donc j'ai beaucoup dessiné, beaucoup, beaucoup écrit. C'est des choses que je faisais plus. J'ai lu.
Je pense à des gens qui pourraient nous écouter et qui peuvent se trouver dans une situation un peu identique, tu vois, où t'es un peu perdu tout en faisant plein de trucs et c'est cool. Est-ce que t'as des questions qui t'ont guidé un peu, qui t'ont permis... qui étaient vraiment genre qui t'ont permis vraiment d'avancer sur cette découverte de toi?
Non, mais en fait, il y a un peu un espèce de retour à l'enfance.
Ouais, dans ta cabane.
Voilà, mais en fait, il y a quand même quelque chose de que je pense de la création qui est très en rapport avec cette histoire de cabane et tout. Ce côté un peu Montessori, on va mettre des choses par terre et le gamin va essayer, toucher et tout. Et il y a un peu... Moi, j'ai eu une redécouverte des sens de ce que c'était de dessiner, de se laisser aller, de faire de l'écriture comme ça, et de surtout pas se fixer d'objectifs, et d'être instinctivement attiré par une chose ou une autre, et se laisser le temps. Et je pense qu'on devrait tous redevenir des enfants, en fait.
Non mais à fond, en fait, moi un truc qui me marque chez les enfants, c'est vraiment le côté... J'avance sans crainte, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de problème, tu vois, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste, ok, on a fait un truc, c'est raté. C'est pas raté dans leur bouche, c'est genre, c'est fait quoi. Ouais. Et maintenant, on va faire un autre truc. Et ça, je trouve que c'est trop, trop fort dans la créativité. C'est quand t'arrives à te dire, je suis plus dans la peur du jugement de l'autre, je suis plus dans la recherche de surperformance ou d'exigence. Tu sais, je sais pas si c'est ton cas aussi. Moi, je sais que, encore aujourd'hui, j'essaye d'être doux aussi avec moi-même de temps en temps. Mais il y a plein de trucs sur lesquels je suis hyper exigeant. Il faut que ce soit vraiment, vraiment bien fait, que t'ailles à fond. Et. On n'est pas très doux avec nous-mêmes, alors que quand t'es enfant, t'es hyper doux. Tu te plantes, t'avances, quoi.
J'avais un professeur de théâtre que, en fait, je suis allée assez peu à l'école. J'ai fait la classe libre du cours Florent, c'est un concours. Ouais. Mais j'allais pas souvent en cours parce que justement je travaillais beaucoup. Et dans une des rares fois où je suis allée en cours, j'avais un prof qui était un ancien chauffeur de salle à The Voice Kids.
Okay.
Et il est extraordinaire, ce prof, il a formé tellement d'acteurs, il s'appelle Cyril Enrep. Ouais. Mais en fait, il me faisait peur, donc je passais jamais sur scène de toute façon parce qu'il était très électrique. Mais un jour, il avait dit « Mais vous comprenez rien moi, j'étais à The Voice Kids et les gamins, ils étaient meilleurs que vous. Et ce soir, vous allez tous regarder The Voice Kids. » Alors que tu sais, c'est un mec qui te prépare au conservatoire national et a priori à entrer à la Comédie Française, à la Colline, enfin voilà. Et là, il te dit « Vous allez me regarder The Voice Kids !» Et il avait trop raison. Parce qu'il disait, vous voyez ces gamins, c'est des tout petits gamins, ils ont à partir de, je sais pas, 6 ans, et ils prennent l'espace et ils te prennent la scène mieux que vous tous dans cette classe. Et en fait, c'est parce que les enfants ont cette chance de ne pas avoir de tics, de ne pas avoir à en faire trop, de juste d'être eux-mêmes et d'être hyper touchant, sincère et émotionnellement vraiment, vraiment sincère, quoi.
Tu vois, je vais te dire un truc. Une des raisons qui m'avait aussi donné envie de t'inviter, qu'on partage ce micro ensemble, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, tu dégages vraiment ce côté sincère, humain, tu vois, et tout. Et en fait... Je trouve que c'est un super outil aussi pour se connecter aux gens qui t'entourent et qui regardent ce que tu fais quand tu crées, quoi. Et parfois, quand on démarre, on a envie que ce soit lisse et que ce soit genre juste selon des standards et tout. Et le meilleur moment, les meilleurs trucs qu'on fait, les meilleures créations, j'ai l'impression que c'est quand on apprend aussi à se dire « Je suis OK avec cette part humaine de moi » et qui touche aussi par ses aspérités et ses trucs imparfaits, quoi. Mmh. Et je trouve que tu le fais bien dans ce que tu... Dans les tournages que tu as pu faire, dans les créations que tu as pu faire. Je trouve que tu vois, tu jaillis un peu une sorte de joie de vivre, de peps. Même là, tu souris, tu vois, c'est bien, tu vois, c'est cool. Et je trouve que c'est un truc qu'on devrait tous essayer de faire plus, d'aller chercher cette humanité, tu vois, qu'on a tous et qu'on a tendance à vouloir camoufler sous prétexte que la société nous dit « fais comme ci, fais comme ça », quoi.
Eh ben...
Non, je sais pas, t'es d'accord?
Ouais.
Il y a un truc que je voulais aborder avec toi aussi. Je trouve qu'il y a l'histoire des Parasites dans lesquels t'as beaucoup joué, dans lesquels t'as beaucoup participé. C'est un truc vraiment qui part du plaisir au départ. Et on en parlait un petit peu même en off tout à l'heure. T'as vraiment le plaisir de faire des trucs avec des potes, oui, sans trop te préoccuper tout de suite de quels vont être les échos publics, tu vois.
Oui.
Et ça, c'est, je trouve, un truc vraiment important pour arriver à créer et juste se lancer sans trop se préoccuper de la suite, quoi.
Bah, c'est vrai que peut-être que, effectivement, créer son cahier des charges... sans avoir à plaire à une production, sans avoir à... ça donne des choses justement très sincères. C'est vrai que les Parasites, on a beaucoup ri sur nos premiers courts-métrages. Ça a été une histoire de franche rigolade.
Ouais. Est-ce que t'as vu j'imagine que t'as vu le truc se professionnaliser, oui, aussi au fil de l'eau.
Oui.
Vous avez réussi à garder ce plaisir... ce plaisir de créer tout en continuant à structurer le projet?
Oui, et en même temps, forcément, il peut y avoir des fracs. Enfin, il y a un peu
des accrochages et tout.
Des accrochages et
normal.
Tout. Et c'est normal parce que partir d'un loisir et d'en faire quelque... Enfin, pas d'un loisir, mais de quelque chose qu'on faisait pour se faire plaisir et se professionnaliser vraiment et vendre un projet, ça veut dire définir des chefs, ça veut dire définir des rôles précis. Et puis, forcément, c'est aussi un métier où on a tous de l'ego. Non, mais c'est comme pour n'importe quel projet qui part un peu à l'arrache et qui d'un coup devient gros. Forcément, ça ne peut pas se faire toujours dans la douceur.
Mmh. Ouais, il y a un peu de structure à le faire un peu dans le...
Rien que la structure, c'est un peu synonyme de rigidité. Ouais. Donc,
ouais, ça fait partie du lot. Et vous aviez un truc que je trouve vraiment trop cool, qui était ces défis 48 heures que vous faisiez.
Oui.
Qui, pour moi, est un truc trop cool de arriver à créer sous la contrainte.
Oui.
Cette contrainte-là, tu l'as vu dans ces moments-là, à quel point ça pouvait aussi stimuler ta créativité, oui,
Moi, j'écris pas et je réalise pas avec les parasites. Alors, j'ai toujours joué et fait les films. On a toujours fait les films tous ensemble et tout. Mais effectivement, moi, j'écris pas. Mais je remarquais bien que, en fait, quand on n'avait pas de contraintes, les fois où on n'avait pas de contraintes, ça allait beaucoup moins vite et on galérait, quoi. Et pareil, on a fait des films après, hors 48 heures, pour la chaîne YouTube. Et pareil, c'était beaucoup moins efficace et c'était beaucoup moins...
Plus de dispersion.
En fait, c'est un groupe qui marche très bien sous la pression, quoi.
Ouais. Je pense qu'on est un peu tous comme ça. Dès qu'on a de la deadline, le truc, ok, il faut faire ça en temps de temps. Direct, j'ai l'impression qu'on est plus actif et plus... oui, effectivement, et je vais accepter aussi que ce soit moins parfait et je le fais plus vite, quoi.
Après, je pense qu'il y a des gens qui aiment bien ne pas travailler dans l'urgence. Je les respecte beaucoup.
C'est clair. Là, tu fais pas mal de... T'as pas mal de nouveaux projets. Tu me disais qu'il y avait des trucs de podcast, de dessins animés qui commencent à émerger. Mm. T'as envie d'aller vers quoi dans les prochaines années, dans les trucs... Est-ce qu'il y a des trucs que t'as envie d'explorer plus, des compétences que t'as envie d'apprendre?
Justement, après mon burn-out, je me suis rendu compte... Parce qu'en fait, j'étais comédienne et j'avais toujours fait que ça, en fait, jouer. Je connaissais que ça. Et en fait, j'ai eu envie d'aller vers l'écriture et la réalisation. Ouais. Et c'est ce qui se passe en ce moment. J'écris beaucoup et je commence à avoir des contrats de... d'auteur.
C'est cool. c'est trop bien. Bravo.
Ouais, bah en fait, j'étais hyper contente de pouvoir dire ça y est, j'écris. Enfin, de dire ouais, je suis autrice.
Ouais. D'assumer ça aussi et de, d'avoir une sorte de fierté aussi de des projets d'écriture
qui sortent. Pour l'instant, j'ai pas encore de fierté parce que c'est vraiment le tout début du chemin et j'apprends beaucoup. Mais c'est hyper grisant de se dire voilà, bon, j'ai quand même beaucoup joué, ça fait enfin bientôt 10 ans que j'ai joué non-stop dans un milliard de trucs différents, que ce soit à la télé, au théâtre, en doublage, à la radio. Là, c'est un peu genre...
C'est cool, on teste d'autres
choses.
Ouais. Par rapport aussi à cette période qui était plus difficile de burn-out, je trouve que quand on est indépendant, quand on travaille dans les milieux artistiques, tu peux aussi avoir toujours une pression financière de t'en sortir. Toi, pour toi, ça a toujours été, t'as réussi à trouver toujours de quoi tenir, ou il y a eu des moments qui étaient durs aussi et...
Moi, j'ai pas eu de grosses disettes parce que, justement, comme j'étais une grande cinglée de mon plan de carrière absolument infaillible à 16 ans, j'ai toujours gagné ma vie comme une adulte alors que j'étais très jeune. Donc, j'avais fait des économies et tout. Donc, cette année où j'ai décidé de tout arrêter, c'était pas complètement non plus inconscient, parce que j'avais de quoi tenir un peu. C'était pas grave. Et je me souviens que j'étais inquiète, parce que je suis toujours inquiète, et que mon père me disait, mais enfin, calme-toi. Enfin, vraiment, ça va.
T'as de quoi venir.
Enfin, évidemment que tu vas retrouver du boulot. Tu peux te calmer de... Enfin, ok, t'as décidé de te reposer, et bah, fais-le, c'est important.
Ouais, ouais. Je trouve ça important parce que je pense qu'on a tous cette peur, tu vois, que ça s'arrête, ou cette peur qu'on soit en danger, etc. Parce que c'est pas un métier où t'as une constante de... Tu vois, finalement, c'est facile d'être en CDI et d'avoir toujours ton salaire qui tombe à la fin du mois. Quand tu l'as pas et que t'as un peu plus de doute et que ça dépend de contrat et tout, tu peux... Bah, t'as mine de rien cette pression de te dire, ok, j'assume ça parce que je suis à mon compte, quoi.
Vraiment, il y a un moment où la question se posait de reprendre le spectacle, le très gros spectacle dont j'avais rêvé mais dans lequel j'étais extrêmement malheureuse. Ouais. La question s'est posée de le reprendre et j'ai choisi de ne pas le reprendre. Et en fait, j'ai vraiment dit, un contrat avec moi-même, j'ai dit, s'il faut, je ferai un petit boulot. Vraiment, je préfère effectivement aller faire du service, aller faire de la plonge, mais ce qui n'a pas été le cas, parce que le moment où vraiment ça s'est posé la question de est-ce que je prends un petit boulot maintenant que je suis plus intermittente et tout, quand j'ai commencé à arriver un peu au bout de la période de bon, je me repose, mais vraiment, il faudrait peut-être remettre au boulot. J'ai tout de suite, finalement, j'ai décroché un tournage qui a fait que finalement, je ne l'ai pas fait. Mais c'est vrai que vraiment, j'avais fait vraiment le contrat de j'irai faire du babysitting, enfin, peu importe, ouais. Mais je retourne pas.
Tu l'as trouvé quoi?
Je retourne pas là-bas.
Et il y a des personnes qui t'ont aidé à t'en sortir? Qui ont été piliers dans ces moments-là, dans ton entourage ou dans des.
Ouais, autres. Bah vraiment, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai des parents qui sont un peu dépassés, mais très, très contents, enfin très gentils, enfin très présents.
Ouais,
pardon.
Je lisais pour préparer l'interview qu'il y avait un moment quand t'étais toute jeune. En gros, je crois que ça a été un stage, un premier stage de théâtre, un
oui.
Truc, et que t'es rentrée et t'as dit à ta maman, je serai comédienne. Et ta mère, elle était là genre, ok.
J'ai dit à ma mère, non, j'ai pas dit ça, j'ai dit, maman, je veux rentrer au Conflorent, sinon je meurs. J'étais
c'est
un peu
extrême.
Dramatique.
En fait, écoute, évite de mourir, pas de soucis, on va te mettre au Conflorent.
Mes parents m'ont en fait offert un stage de théâtre, et quand je suis rentrée en voiture de ce stage d'une semaine, j'ai pleuré tout le trajet qui durait peut-être 1h30. On était coincés dans les bouchons, et je me souviens, ma mère disait, mais arrête de pleurer. Tu l'as, non maman, je vais mourir. Je vais mourir, il faut que je sois comédienne, c'est mon seul moyen. Et elle finit par dire, bon bah écoute, d'accord,
on va trouver
d'accord,
une solution.
Arrête de...
Ouais. Je trouve ça marrant que t'aies eu très tôt ce plan de carrière presque, tu vois, cette ambition hyper presque très claire dans ta tête que en gros il y avait un côté bulldozer, il faut y aller, etc. En ayant vécu ensuite ces moments plus difficiles, est-ce que t'aurais envie de refaire la même chose? Est-ce que tu penses que ça t'a quand même aidé d'avoir ce côté-là pour démarrer et te lancer et puis avancer?
Moi je pense que ça a été très dur parce qu'en plus je me suis fait beaucoup harceler en fait au travail parce que
ouais.
J'ai commencé très jeune et avec des parents mais qui étaient très présents mais complètement dépassés en fait parce qu'ils connaissent pas du tout les codes de ce métier, ce qui est normal, ce qui est pas normal. Il y avait pas encore eu le hashtag MeToo, il y avait plein de choses qui étaient encore un peu en zone grise à l'époque j'aurais aimé être plus protégée. Mais parce que je disais pas tout, enfin je gardais beaucoup de choses pour moi et j'aurais aimé être un peu plus comment c'était en plus de douceur on va dire, mais à la fois je me dis j'ai eu cette force de caractère et puis quand j'y repense j'ai pas l'impression que c'est moi parce que
t'as beaucoup évolué.
Oui voilà c'est ça, mais je me dis j'ai eu la force de caractère de continuer toutes ces années même si c'était complet, mais vraiment j'étais une zinzin quoi. Ouais.
J'adore le terme de zinzin.
Donc c'est bien parce qu'aujourd'hui bah, j'ai quand même beaucoup d'expérience et donc je pense que techniquement je me fais confiance. Je sais qu'on peut me donner un truc, enfin on peut m'appeler et je sais que j'assure.
Ouais, y a quand même une forme de confiance en soi qui vient de la répétition, de choses que t'as fait et que t'as affiné petit à petit aussi dans ton, dans ton art de comédienne. Moi, je trouve que t'as ce chiffre, je voulais en reparler parce que je trouve qu'il est fou de... Ok, j'ai joué 350 fois une pièce, puis 200 fois une autre.
Et en fait, dans le théâtre, c'est énorme, mais
oui,
en fait, il y a des trucs bien.
Des trucs
mais non, mais
il
faut que j'arrête
2000.
De comparer à tout.
Non, mais c'est normal, mais je trouve ça quand même cool parce que c'est le temps long aussi, tu vois. C'est se dire, ben, sûrement que tu le vois pas au jour le jour, mais sur 300 fois, 350 fois... T'as des progressions, tu vois, tu pratiques des jeux, tu assimiles des trucs, tu ancres des réflexes qui te permettent en fait de devenir une meilleure comédienne aussi au fil du temps et d'avancer sur cet art-là, quoi.
Oui, et puis même, mais toujours on parle de la souffrance, mais moi j'ai des souvenirs surtout du théâtre de devoir jouer par vents et marées. Enfin, genre avec une grippe, à se faire des piqûres de cortisone.
C'est vrai okay.
Ouais, ou même, je me souviens une fois, je suis tombée dans les pommes au milieu de la pièce, les pieds en l'air, et hop, ça repart en trop balance sur scène.
Wow.
Mais en fait, parce que le théâtre, c'est un art qui pardonne. Enfin. Tu peux pas dire, je suis désolée, j'ai la grippe, je peux pas venir.
T'es entier dedans, quoi.
Oui, c'est vraiment un art. Et là où les tournages sont plus doux, c'est que je me souviens, moi, quand j'ai commencé à avoir les prémices du burn-out qui arrivaient, je faisais des malaises. Et j'étais tombée dans les pommes pendant un tournage. Et il y avait, je sais pas, une équipe de 50 personnes qui était à l'arrêt. Et j'étais là, j'arrive, désolée, pardon, j'arrive. Et c'était là, waouh, mais non, mais calme-toi, hein, on ne sauve pas des vies. Hein. C'est juste de la télé, enfin, calme-toi. On va aller fumer une clope tous et prends ton temps.
Ouais.
Et il y a ce truc quand même un peu plus doux de ne pas être en direct tout le temps.
Ouais, c'est clair. Et le théâtre est assez brutal pour ça.
Et t'as...
Et c'est aussi beau pour ça, parce qu'il y a le public qui est là, que t'as le retour en direct, et que...
Et
c'est très enflammé.
Ouais. T'avais des jours où te... Tu sais, à partir du moment où ça devient un métier, tu dois assurer même les jours où ça va pas, quoi. Il y a des jours où t'allais sur scène et t'étais genre... Ok, je vais faire mon boulot, mais je suis pas ouf, quoi.
Ah bah oui, oui. Ouais. Bah surtout que moi, c'est presque comme si j'avais vécu mon adolescence sur scène. Donc les chagrins d'amour, où t'es en larmes avant d'entrer sur scène, et puis t'arrives, et en fait, d'un coup, ça va super bien, puis tu s'arrêtes là. Ah. Non, mais c'est un peu...
C'est dur, ce double jeu.
C'est dur, et en même temps, c'est aussi une protection, la scène. Ouais. C'est qu'en fait, tu rentres sur scène, de toute façon, t'as laissé tous tes problèmes au vestiaire, et là... Et là, t'es une petite bonne ou t'es... je sais pas.
Trop cool. Ça te dit qu'on se fasse une petite, petite pause ludique?
Je sais pas ce que ça veut dire, genre pause un peu ludique. Peur, mais d'accord.
Pause ludique, on va jouer, on va s'amuser.
D'accord.
Oui. Je vais te poser une question et j'aimerais que tu y répondes en Lego. Déjà, on peut renverser les Lego. Tiens, je te laisse le faire.
Ok.
C'est hyper... hyper bruyant. J'aimerais te demander, dans tous les trucs, toutes les créations dans lesquelles tu as joué, sur lesquelles tu as participé, est-ce qu'il y en a une dont tu es particulièrement fière de ce que tu as fait dedans? Une qui t'a marqué et qui t'a... où tu te dis, mais je suis trop content d'avoir fait ça, c'est vraiment un projet dont je suis trop fière et c'est trop cool, quoi. Genre, tu y repenses maintenant et tu te dis, bah, tu sais, on a parlé tout à l'heure de ces premières années où... On pense à la suite, à la suite, à la suite, mais on prend pas le temps d'être fier juste des trucs qu'on fait. Et s'il y avait un truc, un projet créatif que t'as fait où tu te dis, ben, ça, franchement, chapeau, ma petite Roxane. Ça peut être besoin d'être le meilleur, forcément, un qui te vient.
Il y a un truc un peu rigolo.
Ouais.
Ah, elle est dure, ta question, elle est trop dure, en fait.
Vas-y.
Sorry, I can't. Non, rigolez. Non, mais...
Ça me fait toujours peur que j'ai un invité qui me dise ça. Wow. Je suis en mode genre...
C'est hyper compliqué parce que, en fait, effectivement, moi, je me suis retournée un jour et j'ai dit, Roxane, sois fière de toi, mais en fait, de la globalité. Hein.
Ouais.
Pas d'un truc en particulier.
Ouais.
J'ai du mal à me dire qu'un truc a été parfait.
Non, c'est pas parfait. Hein. C'est un truc qui t'a rendu fier, tu vois. Où tu t'es dit, ça c'est cool que j'ai fait ça quand même. Je suis content de ce que j'ai réussi à donner de moi-même là-dedans.
Il y a un truc un peu marrant.
Ok, vas-y.
Dont je peux te parler, est un petit peu incongru.
Ouais, tu veux le raconter en Lego
Je dois le raconter en Lego.
Le but, c'est pas de faire une fidélisation parfaite.
Mais ils sont vachement bizarres. Genre, ça, c'est pour. Ça symbolise une personne, par exemple.
Bah, par exemple, si
ça,
tu veux.
Ça, c'est moi.
C'est la créativité des Roxane, donc
rose.
Tu fais ce que tu veux. Ok.
Ok, donc ça, c'est moi.
Ouais.
Et moi, pour apprendre l'anglais. Je regardais Anna Montana, donc on va prendre un rectangle.
Ça, c'est Anna Montana.
Donc ça, c'est Anna Montana dans la télé. Ah,
okay.
Génial, c'est hyper bien.
Ok, génial.
Et en fait, un jour, mon agent m'a dit, Roxane, j'avais 18 ans. Roxane m'a dit, mon agent m'a dit, Roxane, c'est mon agent, Roxane, il y a Disney Channel qui tourne un film américain. Ils cherchent une jeune fille pour jouer une française. Et moi, je suis genre, oh my god.
I'm the French Anna Montana.
I'm the French girl you need. Oh wow. Et donc j'arrive au casting avec cette directrice de casting et je suis genre, j'avais hyper bien appris mon texte, mais genre vraiment sur le bout des doigts.
Ouais.
Et j'étais surexcitée parce que je sais très bien que Anna Montana, que les sorciers de Waverly Place, ils sont surexcités tout le temps. Du coup, j'étais là. My name is Braxton Brett and I can dance, I can sing and I can do everything, I can do cupcakes, ha! Voilà, donc vraiment, en plus, je m'étais habillée comme on imagine qu'une Française s'habille.
Ouais. Donc, t'avais une baguette de pain, une marinière ou...
Tutu. Non mais genre, j'avais une petite jupe un peu what the fuck et tout.
Okay.
Je suis trop nulle avec les Lego, pardon.
Non, c'est bien, c'est trop bien.
Et en fait, j'ai été prise.
Okay.
Pour ce film américain, tourné par un gros bonnet de... Lui, c'est le
D'accord.
réalisateur.
Il a des gros yeux.
Vince Marcello,
okay.
qui a en fait réalisé Camp Surf, qui a réalisé The Kissing Booth 1, 2 et bientôt le 3, je pense, sur Netflix. Enfin,
okay.
un gros bonnet de la comédie américaine.
Ah, mais qui pèse là-bas.
Un peu musicale, pour ados, voilà. Et donc, je débarque à Budapest, parce que ça se tournait à Budapest, pour un mois. Toute petite Roxane, de 18 ans, dans l'avion. Et donc, j'arrive, je suis désolée pour les Legos, parce
c'est
que vraiment, je sais pas quoi.
Je te juge pas sévèrement comme ça, c'est trop bien.
Et en fait...
On est avec toi, là.
Je suis arrivée sur le set, comme ça. Ça, c'est le set, tout ça. Ouais. Hi, my name is Roxane and I don't speak English actually.
Ouais. Moins excitée à ce moment-là.
Vraiment, je parlais pas anglais, en fait. Ouais. J'avais vraiment super bien appris mon texte, etc. Mais en fait, je comprenais
rien.
Parce
que tu jouais en anglais.
Je jouais en anglais.
Super dur.
Et en fait, la team américaine et la team hongroise s'attendaient à ce que je parle anglais. Sauf que, non. Et en fait, je me suis retrouvée... avec l'actrice principale et toutes ses copines qui parlaient que anglais. Et l'actrice principale, aujourd'hui, elle est super connue. C'est celle qui joue dans High School Musical sur Disney+.
D'accord.
C'est Olivia Rodrigo, celle qui vient de sortir License, je sais pas quoi. Et en fait, elle m'avait écrit des cartes pour m'annoncer ma bienvenue. Genre « Hi French girl, can't wait to see you ». Et en fait, je suis arrivée en jogging en mode, avec les cheveux gras, en mode « Yo, c'est moi la française ». Et c'est genre « Ew, she seems weird ». Et elles sont parties. Et genre, du coup, j'étais seule. Oh. Et elles avaient 10-12 ans, moi j'avais 18 ans. Et j'étais vraiment seule à Budapest comme ça. Et en fait, pendant un mois, j'étais la fille la plus perdue du monde.
Ouais. T'avais des adultes avec toi, des gens qui
t'avaient... J'avais des adultes qui étaient très saoulés que je parle pas anglais. Parce que, en fait, les Américains, ça va très vite. C'est vraiment... Ouais. Les enfants, ils se lèvent à 6h, ils se couchent à minuit, ils râlent jamais. Ils savent faire des claquettes, danser, faire le grand écart. Ils sont adorables. Voilà. Et en fait, sur le plateau était vraiment très, très grand. Et moi, j'étais là avec elles toutes. Ouais. Et en fait, très souvent, on était guidés à l'oral. Et le réalisateur, il était super loin dans une autre pièce. Et, parce que c'est des très, très gros sets où il y a plein de caméras qui bougent et il y a des danseurs, il y a des effets spéciaux de ouf. Et en fait, moi, j'étais tout le temps genre... en train de courir partout à rien comprendre. Et en fait, le réalisateur, il communique avec des haut-parleurs qui sont sur les côtés comme ça.
Ça doit être vachement intimidant.
Et il faisait « Sweetheart ». Sweetheart, can you go on your right, please? Et tout était genre, ah, quoi? C'est qui, Sweetheart? Est-ce que c'est moi ou pas? Et donc voilà. Et du coup, les quatre filles, elles me prenaient vraiment pour une gourdasse. Genre, la française, c'est vraiment une gourdasse. Et voilà, j'ai pris des cours de pâtisserie, j'ai pris des cours de danse, des cours de chant, en ne pigeant que dalle.
Là-bas?
Ouais.
Ok.
Et à tourner en comprenant rien, j'ai été coupée d'une scène. Parce que j'avais beaucoup de scènes. Ils ont recadré le plan pour m'effacer de la scène.
Mais par contre, ça a l'air hyper brutal comme expérience. C'est presque traumatisant, non?
C'était hyper dur sur le moment, mais aujourd'hui, j'en rigole vraiment beaucoup. Parce que c'est dingue de se retrouver sur un énorme plateau américain comme ça, un film à plusieurs... Enfin, très, très cher à produire. Ouais. Et en fait, c'était la productrice de Phénomène Raven, la productrice. Ouais.
Grosse production.
Énorme truc, vraiment, j'ai atterri là-bas et puis personne en France n'en a entendu parler, donc c'est un peu marrant, tu vois.
C'est la première fois que tu le racontes?
Je sais pas si j'ai raconté, ouais. Okay.
Ouais, je trouve ça trop cool comme souvenir.
En fait, ce qui est marrant, c'est que le tout dernier jour, il y a la grande productrice américaine qui arrive et qui fait « Hi, Olivia, you've been amazing. You're the most beautiful actress I've ever seen. Oh my God. Oh, je sais plus, Kimberly, oh, you were so great, such a good actress, blablabla. Et il arrive à moi, il fait, hi Roxy, you're beautiful, don't change anything, bye.
Ok.
Moi j'étais genre, oui. Genre, elle a vraiment fait un blanc en mode, elle faisait des compliments aux actrices du film en mode, ciao, c'est le dernier jour, c'est merveilleux et tout. Genre, moi elle était dépitée, elle savait pas quoi me dire, elle était genre, hi Roxy.
Keep
you're
like
beautiful.
That. Keep the good work. Cheers.
Et voilà, après j'ai repris l'avion, je suis rentrée à Paris et j'ai jamais rebossé avec les États-Unis, même si maintenant je parle très bien anglais.
Ouais, on l'a entendu, hein. Très bon accent. Non, c'est vrai. Mais.
Voilà, et ça personne ne le sait parce que.
Tu gardes quand même une fierté de ce moment-là?
Ouais.
D'avoir tenu le coup, fait ton truc et.
Pas une fierté. Mais après, tu vois, le film, ça s'appelle Grace Tears of Success. Ouais. Et c'est une série de films qui s'appelle American Girl. Elles ont toutes fait un truc comme ça, genre Shailene Woodley, machin. Et en fait, j'ai un peu la fierté d'avoir joué là-dedans. Et qu'en fait, finalement, ça rend bien. C'est un peu drôle parce que tu te dis, mais moi, j'étais...
Larguée.
Larguée, larguée, larguée à fond. Et en fait...
ça tient la route.
Ça se voit pas.
Ouais.
Et en fait, le film est marrant. Et c'est quand même un peu genre, ouais, j'ai joué dans un gros film américain.
Yes.
Yeah. Genre, c'est un peu marrant. Mais personne ne le sait.
Ouais, c'est cool. Trop bonne anecdote. Bah écoute, merci, tu t'es super bien débrouillé avec les Lego.
Non.
Mais si, arrête.
Mais je pense que, en fait, avec des petits personnages qui ont des vraies têtes,
ouais,
ça serait peut-être plus simple.
Ouais, là, il n'y en a pas dans cette boîte. Et par contre, ce qui est très drôle, c'est que tu es la seule qui t'est dit, je ne vais pas construire un truc, genre je vais pas faire des briques et tout, mais genre je vais prendre des Lego et animer et jouer le truc. Et c'était trop cool.
C'est pas trop cool.
Non mais tu vois, tu t'es pas dit genre ouais, je vais raconter le haut-parleur du producteur qui était chiant et tout, qui gueulait Sweetheart. Non, tu aurais été un haut-parleur, tu vois.
Mais c'est trop long.
Ouais. Cool. Merci Roxane. On y retourne. Du coup, Roxane, dans la troisième partie, j'aime bien faire un truc où on va creuser un peu plus les choses qu'on a à l'intérieur, même si je trouve qu'on a parlé de trucs trop intérieurs déjà
on
et c'est trop bien.
On a vachement creusé à l'intérieur. Hein.
Je vais creuser l'extérieur. Et en gros, je fais un truc où, que j'appelle à cœur ouvert. Où en gros, pour pouvoir écouter vraiment ce qui vient du cœur chez l'autre, on va se mettre un petit bandeau sur les yeux.
Oh mon Dieu.
Et on va se concentrer juste sur la voix.
Qu'est-ce que c'est que c'est et manigance.
Ils sont très beaux, c'est bon, ces petits bandeaux.
Ah oui, d'accord, ok. Eh ben, d'accord, ok.
Nickel. Tu me dis quand tu l'as attaché. J'attache le mien aussi.
Je sais pas si...
Tu vois, au début, ça fait bizarre.
Ouais, ok.
Et en fait, on...
Pardon.
Non, t'inquiète.
Je trouve ça rigolo.
Ouais. Et tu vas voir qu'en fait, on fait super attention aussi à la voix de l'autre.
D'accord.
Et naturellement, en général, moi, je remarque après quelques
épisodes. Mais tu l'as mis ou pas, toi?
Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu peux vérifier si tu veux.
Oui, c'est bon.
Je t'imagine en train de lever le bandeau pour vérifier. Cool. Tu m'as dit tout à l'heure que tu l'as dit un peu à demi-mot, mais je trouve ça trop intéressant d'aller creuser un peu plus, que tu étais quelqu'un de vachement inquiète.
Oui.
C'est, qu'est-ce qui te rend inquiète? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce qui te met un peu de pression?
Bah, en fait, je sais pas bien. Enfin, parce qu'en fait, souvent, j'ai aucune raison d'être inquiète. Ça vient principalement de mon cerveau qui crée des inquiétudes tout seul. Parce qu'en fait, j'ai jamais manqué de rien. Je me suis toujours très bien débrouillée. J'ai toujours eu du boulot. J'ai toujours gagné ma vie. Mais j'ai toujours l'impression que ça va s'arrêter.
D'accord.
Et du coup, j'ai toujours... ouais, toujours angoissée là-dessus, alors qu'en fait, tout va bien. Enfin, c'est vraiment bizarre. C'est quoi la question, déjà?
Non, mais c'est qu'est-ce que c'est tes inquiétudes, si tu essaies de les noter? Donc, c'est peut-être la peur que tout s'arrête.
La peur que tout s'arrête et la peur de manquer, alors qu'en fait... Mais en fait, j'ai quand même un modèle dans la vie très fort. En plus, je lui ressemble extrêmement physiquement, on a une ressemblance incroyable. C'est ma grand-mère paternelle.
D'accord.
Qui est quand même un modèle de réussite un petit peu, assez impressionnant en fait.
Ouais, raconte-moi.
Ma grand-mère est donc une des premières femmes à avoir intégré Centrale Supélec.
D'accord.
Et la toute première femme cadre supérieur de la Société Générale.
Ok.
Et donc, ma grand-mère, elle a, entre guillemets, informatisé la banque. Ouais. Et donc, ça a donné lieu à la création de la carte bleue.
Waouh!
Donc, en fait, ça pèse.
Ça pèse dans le game.
Non, mais ouais, ma grand-mère est une figure assez importante dans le milieu de l'ingénierie informatique. Mmh. Et moi, je me suis toujours énormément identifiée à elle. Parce qu'en plus, même physiquement, on se ressemble énormément. Okay. Et j'ai toujours beaucoup admiré cette grand-mère. Et je pense qu'il y a aussi cette envie de peut-être de lui ressembler, mais dans mon milieu, quoi.
Ouais. Et t'as peur parfois de pas être à la hauteur ou de décevoir justement en mode Il y a des gens qui ont réussi avant moi, même dans ma famille ou autour de moi. Et j'ai envie d'être haut niveau, entre guillemets.
Non, parce que alors, vraiment, mes parents m'ont jamais mis mais aucune pression sur rien du tout.
Ouais.
Enfin, vraiment, j'étais pas une excellente élève. Bon, je me faisais un peu engueuler parce que, bah, effectivement, j'en fichais pas une.
Ouais.
Mais, enfin, vraiment, j'ai... Non, pas du tout.
Non, ok. Et je trouve que la peur que ça s'arrête, c'est un truc qui est aussi très lié au fait qu'on aime tellement ce qu'on fait. Il y a toujours une passion et un truc qui est tellement fort dans ce qu'on aime, tu vois, qu'on a l'impression qu'on est à la bonne place, quoi. Qu'on a l'impression que si ça s'arrêtait, c'est pas que, tu vois, genre le côté public, le côté on fait des trucs et tout, c'est bien. Mais en fait, c'est la peur que ça s'arrête, qu'on arrête de vivre ce qui a du sens pour nous, quoi.
Bah oui, ouais, je comprends ce que tu veux dire.
Est-ce que t'as des choses quand tu... Par exemple, en ce moment, tu me disais que t'écrivais beaucoup, plus que d'habitude, plus qu'il y a quelques années, ou quand tu jouais aussi beaucoup, et tu le fais encore, hein. Est-ce qu'il y a des trucs très concrets sur lesquels tu doutais?
Oui, moi, j'ai beaucoup douté de... Enfin, le moment où je me suis un peu retournée, je me suis un peu demandé, mais pourquoi je fais tout ça?
Ouais.
Et à quoi ça rime? Et est-ce que le fait de tourner, bah, notamment avec Les Parasites, ou il y a un téléfilm qui a beaucoup compté pour moi aussi, où j'avais le rôle principal, qui s'appelait Les Filles du Plessis,
ouais.
Qui parlait d'une révolution féministe fin des années 60 chez les filles mères. Et j'ai découvert le féminisme à ce moment-là, et puis j'ai toujours été très sensibilisée à l'écologie avec Les Parasites.
Ouais.
Et il y a plein de gens qui ont commencé à m'interviewer en me disant « Alors toi qui es quelqu'un de très engagé, il y a vraiment eu cette question à un moment de dire « Mais en fait, est-ce que je suis engagée ? Est-ce que faire jouer des rôles engagés, ça fait de moi quelqu'un d'engagé ?» Et non, en fait. Enfin, oui et non, la question, elle est un peu complexe. Mais ça, ça a été un vrai gros questionnement pour moi. Et donc, dans l'écriture, j'essaye un peu de répondre à cette question.
Ok. Et est-ce que tu dirais que tu te sens assez facilement légitime? Ou au contraire, quand tu fais des choses, quand tu fais des projets, quand tu écris, quand tu prépares des séries ou les podcasts que tu prépares, est-ce que tu... T'as ce truc du syndrome de l'imposteur où tu te remets beaucoup en question en mode ouais, mais je sais pas le faire encore, ou au contraire, t'as vite confiance?
En tant que comédienne, maintenant j'ai plus de questions.
Okay.
Je sais. Je sais
faire.
Que je sais. Ouais. Franchement, c'est de la coquetterie de dire non, je sais pas. C'est... Ça va. T'apprends ton texte et t'y vas et puis t'arrêtes de faire gna gna gna. Je dis ça à moi. Hein. Je dis pas ça à toi. Je me permettrai pas de trucs trop bizarres.
On a les yeux bandés, donc on fait attention à la voix. Très bien.
Mais après, c'est vrai que l'écriture, bon, la réalisation encore plus, j'ai tendance à dire, à montrer les choses que je vais et dire, attends, c'est nul, hein, mais tiens, regarde. Et en fait, non, là, pour le coup, j'ai pas du tout confiance en moi.
Ok. Et comment tu fais pour l'acquérir progressivement? Est-ce que c'est juste le truc de agir et faire et t'espères que ça va venir un peu comme tu l'as fait pour la comédie?
Ouais, je pense qu'avec l'expérience, de toute façon, on apprend et on se met en place, quoi.
C'est clair.
Qu'il y a un moment, si t'as réalisé 15 films, plus personne peut venir te dire tu sais pas faire.
Bah ouais, c'est clair.
Enfin, je sais
pas. T'as des validations qui sont extérieures aussi, en plus de toi, la confiance que tu prends dans tes capacités. Je pense.
Quoi?
Je dis,
j'ai pas compris ce qu'il a dit, pardon. Oui.
T'inquiète, hein. Je disais que t'as une sorte de validation extérieure, tu vois, quand les gens voient que t'as fait 15 films, ils se disent, ah ok, bon, mais il y a un peu de bouteille, il y a des trucs. Mais t'as aussi cette validation intérieure, tu vois. Tu te dis, ok, bah en fait, j'en suis capable et ce qui me paraissait être un seuil infranchissable, inatteignable, maintenant je sais le faire, quoi.
Oui, voilà, parce qu'il y a un moment, même si les gens aiment ou n'aiment pas, c'est une chose.
Ouais.
Mais une fois que l'objet est là, c'est que tu l'as bien fait, tu l'as fait. Donc, à un moment, t'en as fait plein, tu finis par savoir faire, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que tu dis un truc super intéressant sur comment le public va recevoir un truc que tu fais. Et en fait, t'as ce côté genre, où est ma responsabilité et où est-ce qu'elle s'arrête, tu vois? Genre, ma responsabilité, moi, c'est de faire, de me donner à fond et de mettre toutes mes tripes dans ce projet à l'instant T, du maximum de ce que je peux faire. Mmh. Mais ensuite, c'est vrai que je pense que tu dois avoir une forme de lâcher prise derrière, de bon, bah maintenant, il existe et je passe à autre chose et peut-être que le public va l'adorer, peut-être que le public va le détester.
Non, mais après, de toute façon, c'est la même chose aussi quand t'es comédien et quand t'es plein de choses. En fait, tu peux pas plaire à tout le monde. Donc, tant pis, t'existes et puis ton travail existe. Et puis, il trouvera son public ou non, mais...
Ouais, ça, c'est un truc qui a été facile pour toi. Le côté genre, je peux pas plaire à tout le monde et de toute façon, il faut être un peu...
Ouais, bon. En fait, quand t'es comédien, il y a un peu ce truc où il faut apprendre à se détacher de ton enveloppe terrestre.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y a ce truc où... moi, je sais que j'ai une voix particulière. Je fais beaucoup de doublage, beaucoup de voix. Mais j'ai déjà lu une critique. Je me souviens, c'était dans le Nouvel Obs. Ça m'avait rendu hyper triste. Le mec, il disait, faut que Roxane Bret arrête de piailler.
Oh là là.
ce petit oiseau mal loti ou je sais pas quoi. Et j'étais un peu genre, waouh, ok. Ou pareil, une fois, mon agent m'avait dit, ouais, pour le rôle, franchement, il t'envisageait bien, mais tout. Mais en fait, le réalisateur, il aime pas ta voix.
Ok.
Et bon, bah effectivement, c'est ma voix. Je peux pas la... Enfin, je peux la moduler un peu, mais enfin, c'est ma voix. Et puis, je suis comme ça. Puis, il y a des gens qui vont... Enfin... Comme partout, il y a des gens qu'on va trouver intéressants, pas intéressants.
Ouais. Des gens qui vont adorer ça et d'autres qui vont...
Voilà.
T'arrives maintenant à faire la part des choses. Par exemple, si tu repenses à cette critique qui était assez violente,
ouais.
Aujourd'hui, il y aurait la même qui tombe. Est-ce que ça te touche toujours? Au contraire, maintenant, t'as compris que... Bah...
Non, mais ça te touche toujours parce que c'est pas comme si t'étais comptable et t'avais fait un calcul et on... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même ton...
Toi quoi.
C'est toi quoi.
Ouais, surtout que comédien et même auteur, ouais. C'est un truc où je trouve que tu mets tellement de toi dedans,
ouais.
Que tout retour, ce sera pas un retour juste professionnel quoi.
Mais même quand t'es boulanger, hein,
ouais,
tu fabriques ton pain avec beaucoup de passion,
bébé,
on te dit c'est dégueulasse, t'es genre, ah, bah, enfin je sais pas, je suis pas boulanger, mais enfin j'imagine que ça fait pas plaisir.
C'est clair. Quand tu... là, dans cette organisation un peu spéciale de ton quotidien, tu vois, pendant le confinement, pendant les périodes un peu plus compliquées, où il y a moins de culture, on va dire, dans les soirées, etc. Ça ressemble à quoi? Est-ce que t'es quelqu'un de discipliné quand t'écris? Est-ce que c'est plutôt au contraire le feu, la passion, et d'un coup, j'écris?
Non.
Comment ça se passe?
Non, non. Alors, en fait, moi, vraiment, je suis pas du tout disciplinée. Mais j'y crois pas. Je pense pas que... En fait, je fais rien.
Okay.
Je fais beaucoup rien. J'adore rien faire, mais vraiment rien. Et je refuse de culpabiliser de rien faire.
Ouais.
Parce que en fait, je vis avec un bourreau de travail. Donc,
d'accord, ton copain?
Ouais, il travaille beaucoup. Et moi, je fous rien, je regarde le plafond, vraiment. Et quand vraiment j'ai envie... Mais j'ai souvent envie, hein, donc...
Donc ça va, quand même.
Voilà, ça va. Et quand j'ai envie, je m'y mets. Et puis j'ai tout mon petit matériel à disposition. Et je m'y mets. Mais il n'y a pas d'horaire. Et je pense que si je me mets un horaire, de toute façon, je n'aurai pas spécialement envie. Et,
Ah, il faut que ça vienne de toi, quoi.
Il faut que ça vienne... Enfin, il faut que j'aie envie. Mais en fait, de toute façon, je sais que je suis très efficace.
D'accord.
Quand je m'y mets, puis je tombe dans un tunnel où je vois pas les heures passer et tout. Donc non, il faut que ça tombe au bon moment.
T'as dit, ouais, j'ai mon petit matériel à côté. C'est quoi ton petit matériel? Il y a quoi?
Bah, il y a mon ordi,
ouais.
Un cahier.
D'accord.
Bah, du coup, maintenant, il y a une tablette avec un stylo.
Wow.
Ça, c'est cool.
Ouais.
Et voilà, quoi.
Ok. Trop génial. Ça te dit qu'on enlève le bandeau?
Oui.
Pour revenir à la vie réelle?
Ah, trop bien.
J'ai l'impression de t'avoir infligé une torture.
Non.
Ça va? T'étais à l'aise quand même?
Oui.
Ok, cool. À la fin de chaque épisode, mais en plus tu les as tous écoutés, donc tu connais un petit peu la fin. Mais il y a... Avant, je posais plusieurs questions, maintenant il y en a une qui pour moi est la question centrale, qui est quand même importante. Il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast, qui sont créateurs et qui sont... apprentis créateurs qui creusent et qui ont envie de progresser et qui se posent plein de questions. Est-ce que tu aurais un conseil, un principe, une valeur, quelque chose que tu as envie de leur donner pour qu'ils soient mieux équipés sur leur route de créateur?
Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur du hasard et des accidents et qu'on ne fait jamais fausse route. Je pense que de toute façon, on a tous un chemin qu'on suit, qui nous emmène quelque part. Ce n'est pas toujours la destination qu'on avait visée. Ce n'est pas grave. Ça servira pour plus tard. Enfin, moi, je vois beaucoup d'amis qui sont un peu désespérés et qui, en fait, font des virages improbables dans la vie. Et qui finissent toujours. Enfin, peu importe le chemin qu'on prend, c'est jamais inintéressant. Et même si des fois on en chie, ça nous emmène quelque part et c'est jamais une mauvaise chose. Même les événements un peu durs, un peu tristes, c'est des graines qui sont plantées pour plus tard.
Je trouve ça trop
Moi,
bien.
je pense que vraiment, faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas, il faut pas se dire ça sert à rien. Rien ne sert à rien.
C'est un peu faire confiance au chemin, quoi. Il
Voilà.
va se passer des trucs, ce sera pas. Souvent, tu sais, on a cette image, et tu l'avais peut-être beaucoup d'ailleurs,
Moi,
étant
j'ai
jeune,
eu beaucoup cette image-là,
de la route.
la
Alors qu'en fait,
route.
c'est genre.
Et en fait, c'est plein de virages, c'est plein d'accidents, c'est plein de surprises, c'est plein de belles choses, de choses moins belles, et en fait, de moments inintéressants sur le moment, mais qui en fait. Ah! Ah ouais, en fait, je sais. Je sais faire, par exemple, je sais casser des œufs avec une main. Et j'ai fait un stage de cassage d'œufs avec une main, j'ai
Sérieux?
trouvé ça inintéressant au possible. Mais en fait, après, je l'ai fait dans un film et c'était cool. Enfin bref,
Ouais, comme quoi il y a des choses qui peuvent
c'est un
revenir.
exemple nul à chier. Mais
Et je crois
vraiment.
que si sur ta route, sans que ce soit parfait, que ce soit la route idéale, ou en tout cas la route que t'attendais, si tu t'appliques à toujours apprendre et toujours creuser et toujours être curieux, en fait, il y a un moment, c'est la bonne route, tu vois.
Ouais. Non, mais même on a le droit d'être down. On a le droit d'être down et on a le droit d'en avoir marre. On a le droit d'être triste. On a le droit d'être heureux même si tout le monde est malheureux. Enfin, en fait, laissez-vous vivre. Et je suis sûre que vous ferez créer des créations super sympas.
Trop bien, j'adore, cool. J'ai un petit cadeau pour toi. De fin, à chaque fois, j'offre un petit cadeau à la fin à mes invités. Donc celui-là est pour toi.
Merci beaucoup, c'est trop
Alors,
gentil.
ce truc, c'est un pari.
C'est un pari.
Ouais, je vais te laisser l'ouvrir parce que je pense que je suis pas sûr que ce soit le truc que tu aurais choisi naturellement, mais
Ouais.
c'est un pari de ma passion qui vient de mon envie de te transmettre un truc.
Tu joues aux échecs?
Non, pas du
Bon,
tout.
tant mieux. J'aime pas trop les échecs. J'avais peur que tu m'offres un livre
Non, pas du tout. Non, rien à
d'échecs.
voir. T'inquiète. C'est un fer à repasser. Non, je
Ah,
rigole.
c'est à la forme d'un livre.
C'est ma
Hein,
blague. C'est vraiment la blague nulle que je fais chaque Noël. On a des trucs tout plats avec mon père, qui ont des BD, tu vois. On s'offre une BD et
C'est
il
un
me
fer
dit
à
c'est un fer à repasser, tu vois.
repasser.
Et genre, j'en ai mis 37 en 20 ans. Est-ce que tu connais?
Non, pas du tout, c'est de la science-fiction.
Voilà, c'est pour ça que je sais pas si tu
Trop
penses pas que
bien.
tu lis beaucoup de science-fiction.
Moi, je lis que des histoires d'amour et des choses marrantes. Donc,
Ok.
non, je rigole.
C'est de la science-fiction, mais c'est pas n'importe quelle science-fiction, et c'est pour ça que je voulais te l'offrir. Peut-être comme une porte aussi vers d'autres types de trucs. Ça s'appelle Fondation, donc c'est de Asimov, qui est un des maîtres de la science-fiction. Et c'est un bouquin qui m'a profondément chamboulé, parce que c'est une histoire qui est genre incroyable, où t'as un scientifique, je sais plus dans quelle année c'est, donc ça se passe quand même dans un univers futuriste, mais l'histoire de base est trop cool. C'est genre, t'as ce qu'il appelle un psycho-historien, qui a compris qu'avec des calculs mathématiques, le futur de l'histoire, tu vois. Et il sait que l'empire dans lequel ils vivent va s'effondrer, et que pour qu'il y ait un nouvel empire qui émerge, il faut passer par 1000 ans de détresse, et pas de détresse, mais
Ah, mais
de.
c'est en ce moment, non?
C'est ça. C'est ça. Et en fait, tout est calculé, et il se passe des trucs dans l'histoire et tout, et c'est genre vraiment cool. Et je me suis dit, j'aimerais
Trop
bien
bien.
partager ça à Roxane et qu'elle puisse s'ouvrir aussi. C'est un grand classique de la science-fiction.
Eh bah écoute, j'ai des lacunes en science-fiction, donc je suis contente.
Si t'es
Merci
ouverte à
beaucoup.
l'idée, je suis
Je
content
suis
que ça te.
très ouverte en termes de littérature.
Ok, bah écoute, tu me diras ce que t'en as pensé.
Trop bien. Bah merci beaucoup, c'est adorable.
Avec plaisir. Je suis super content que tu sois venu sur le podcast.
Bah moi aussi, je suis très contente.
Ça me fait trop plaisir. Et je vais te dire un truc. Tu m'as beaucoup surpris quand je t'ai contacté la première fois.
Oui.
Parce que t'étais la première personne qui m'a dit: Ah, mais j'ai déjà écouté le podcast. Et genre,
Oui.
pour quelqu'un qui crée des choses à son niveau, tu vois, je trouve que c'est la plus. Ça fait trop plaisir, quoi. Donc,
Mais en
merci.
fait, je sais pas comment j'étais tombée sur ce podcast, je sais plus, mais vraiment j'avais beaucoup aimé, mais je l'ai réécouté du coup. Enfin, ce podcast,
Ouais,
le podcast en question.
avec Ina, ouais.
Tout à fait.
Trop génial. Merci encore.
Bah merci à
Franchement, c'est trop
toi.
cool. Merci.
Les amis, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Roxane. Je suis trop content de l'avoir fait. Ce qui est très drôle, c'est que Roxane est une auditrice du podcast. Et quand je l'ai contactée la première fois, elle m'a dit « Mais avec grand plaisir !» Et je suis vraiment content d'avoir pu l'interviewer et d'avoir pu aborder avec elle des sujets aussi profonds sur sa création. Comme d'habitude, si le podcast vous a plu, je vous en prie, partagez-le à vos amis. C'est ce qui lui permet de grandir le plus et qui, moi, m'aide à faire connaître le podcast. C'est une parole qui mérite d'être partagée. Roxane est géniale et je rêve de pouvoir le faire découvrir à des milliers de personnes en plus. Donc allez-y, allez-y seulement. Et puis, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner ou à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcasts. Ce sera toujours un plaisir et ça permet au podcast de continuer à grandir et à moi de vous servir. Sur ces bons mots, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine même. Et puis, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. À très bientôt! Ciao, ciao, ciao!